sur les docks. Avec vous, Irène Emelianenko.
Oui, Hervé, ce soir, nous allons écouter un documentaire dans le cadre de l'Union européenne de radio, UER. Et c'est l'occasion pour moi de vous faire part d'un appel à projet nommé Gulliver. Alors, il s'agit en partenariat avec la RTBF, émission Par Oui Dire, et la RTS, émission Le Labo, d'ouvrir les ondes radiophoniques francophones aux auteurs et créateurs radiophoniques de Belgique, de France et de Suisse. Alors, les projets doivent être envoyés au plus tard le 12 février 2016. Pour les auteurs français et belges, à gulliver@sacd-scam.be et pour les auteurs suisses, à david.bucet@ssa.ch.
Ouais, tout de suite, Irène, départ pour la République socialiste kirghize de l'Empire soviétique.
Oui, Hervé, alors imaginez là-bas, un soir de 1973, au pays des ombres et du silence, un vieil homme mourant appelle sa fille à son chevet pour lui révéler un terrible secret qu'il a gardé pendant 35 ans. Après cela, Boubura Kidiralieva vivra 27 années de peur et de cauchemar parmi les fantômes d'un jour de novembre 1938.
Je suis prête. Je commence ici. Tu pourras allumer les lumières. L'interrupteur est à l'entrée.
Deux sacs de farine. Un documentaire de Dominique Henry et Luc Plantier avec la participation de Tourad Bektenov.
S'il n'y a pas assez de lumière, il y a une lampe.
En juillet 1937, Joseph Staline, à la tête de l'Union soviétique, décide d'éliminer tous les ennemis du peuple à titre préventif. En deux ans, 750 000 citoyens seront exterminés sur tout le territoire par l'intermédiaire du NKVD, la police politique. 800 000 autres seront envoyés dans les camps de travail forcé du Goulag. 60 ans après la mort de Staline, peu de témoins directs de ces massacres sont encore vivants.
Il faudra parler en kirghize ou en russe?
On pourra parler en kirghize.
D'accord.
Boubura Kidiralieva, élégante vieille dame de 86 ans, à la stature droite, nous reçoit dans sa minuscule cuisine d'un HLM à la périphérie de Bishkek, capitale de la République kirghize. Ses longues mains fines sont posées sur la table en formica blanc. Elle nous invite à boire le thé. Une coupe déborde de pommes fraîchement ramassées. Des biscuits sont parfaitement alignés dans une longue et étroite assiette. Dehors, le soleil illumine les feuilles jaunies des bouleaux. C'est la fin de l'automne. C'est l'année 1973. Brejnev est au pouvoir. L'Union soviétique est fermée sur elle-même. Malade, inquiet à l'idée de l'emporter dans la tombe, le père de Boubura lui fait jurer sur le pain de garder un secret.
Tu te souviens, ma fille, de l'usine de briques de ton enfance? Là, il y a des intellectuels kirghizes qui sont enterrés. Quand ce sera possible de parler, tu devras dévoiler ce secret. Fais attention. Il pourrait tuer toute notre famille.
Combien de personnes ont eu le courage de livrer les secrets qu'ils détenaient? Combien en ont eu le temps? Combien de secrets ont-ils été emportés dans la tombe? Comment vivons-nous un secret si celui-ci peut entraîner notre mort? En gardant le silence, devient-on fou, paranoïaque? quel est le prix de la vérité?
On a vécu là-bas de 1930 à 1939. Deux familles habitaient là. Nous et les Kobylnikov. Avec leur petit-fils qui s'appelait Volodya. Et nous, on était les Kidraliev. Volodya était en septième. Et moi, j'avais 10 ans. J'étais en deuxième. L'automne est arrivé en 1938. Il y avait des soldats partout pour empêcher les gens de sortir la nuit. Ils ont dit aux gens des 4 villages des environs: dès que vous entendez le bruit des camions, personne ne sort. Éteignez toutes les lumières. Faites taire les chiens. Restez chez vous. C'est un ordre. Seul mon père a eu une autorisation pour qu'il aille s'occuper du bétail. Il partait travailler pendant la nuit. Il s'occupait des animaux, des canards et des poules. Il devait rentrer avant l'aube. Il n'avait pas le droit de rentrer après la nuit. À cause de ça, il ne pouvait rien voir. Il ne pouvait rien savoir. Les soldats ont fermé toutes les routes. Ils entouraient tout le village. Et ils sont partis. Il neigeait. Et j'ai dit à mon père: pourquoi l'usine de briques est toute noire? Et où est le toit? Le blizzard a emporté le toit. Il n'a rien dit d'autre. 10 ou 15 jours après, l'endroit où la terre avait été retournée sentait mauvais. Les chiens hurlaient. Ça puait, c'était insupportable. Ma mère a donné du lait aux chiens, et aussi à nous. C'était difficile. Le 12, avant que je retourne à l'école, mon père m'a dit: si ton prof te demande pourquoi tu n'étais pas à l'école, tu dois dire que tu étais malade et rien d'autre. À l'époque, l'éducation était comme ça. Les gens ne savaient pas du tout ce qui se passait. Au mois de février, on a vu un arc-en-ciel vers l'usine de briques. J'ai appris à l'école que les ossements diffusaient un peu de lumière. Ma mère a pleuré et prié le Coran. Vendredi, on a fait des tokoks. Des pins qui écartent le mauvais œil parce qu'il y avait vraiment des raisons. Écoute bien. Mon père m'a dit, à Bishkek, à l'intersection des rues entre Toktogul et Logvinenko, il y avait une grande prison où ils ont tiré sur ces gens. Ils ont chargé les corps dans deux camions et ils sont partis. Le premier camion était plein avec une bâche noire et beaucoup de soldats. Le deuxième était plein aussi avec une bâche blanche et les soldats surveillaient. Ils ont pris la rue Ortosai et Chontash. Au croisement de la rue de Tashdobo et Kirghiz, à l'est de la rue de Vorontsoka, la rue vers Strelnikov, en passant près de la ferme laitière, vers la maison de vacances du NKVD. Ils sont arrivés à l'usine de briques. Ils y ont mis des corps en criant « 1, 2, 3 ». Ils ont jeté les corps avant qu'ils aient refroidi. Écoute bien. Ils ont tiré, tué, jeté et recouvert. Et ils sont partis. Et après, la guerre a commencé. Mon frère et mon père sont partis à la guerre.
En 1936, la République socialiste soviétique kirghize est intégrée à l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Lors de la Seconde Guerre mondiale, pour faire face à l'avancée de l'Allemagne nazie, le pouvoir soviétique enrôle des millions d'hommes et de femmes des différentes républiques pour sauver les soviets. Des milliers de familles kirghizes resteront à jamais sans nouvelles de leurs proches. Boubura Kidiralieva perdra 17 membres de sa famille, dont on n'a jamais retrouvé les corps. Staline décédera en 1953. L'Union soviétique s'effondrera en 1991.
Je m'appelle Abrakhmanov Bolot Yumashevich. Je suis colonel. Directeur de l'Institut de formation du Comité de la Sécurité nationale de la République kirghize. Du temps de Brejnev, on ne pouvait pas parler de ces choses-là. D'abord, il n'y aurait pas eu de réaction. Ces questions ne pouvaient pas se poser, parce que chaque chose vient à son heure. Boubura l'a dit aussi. En 2002, à l'inauguration du mémorial de Atabeït, les responsables politiques ont invité Boubura et lui ont dit « Si vous nous aviez parlé à notre époque, on aurait pu vous aider. » Mais Boubura a répondu « À cette époque-là, ce n'était pas encore le moment de parler. » Parce que son père lui a dit avant de mourir, tu parleras quand ce sera le moment de le dire.
Je suis tombée malade. J'ai eu un ulcère à l'estomac. Et je n'ai pas pu dormir pendant 2 ans. Un jour, j'ai fermé les yeux et j'ai entendu des voix qui me disaient « Il est temps de parler. Quand vas-tu raconter ?» J'ai ouvert les yeux. Il n'y avait pas de fantôme. Mon père n'a pas pu parler à l'époque de Khrouchtchev. Je n'ai pas pu parler à l'époque de Brejnev. Quand Gorbatchev est arrivé, on a eu la liberté d'expression. Je suis allée chez plusieurs personnes pour raconter. Je suis allée aussi au KGB. Une fois, je suis allée chez un chef de personnel qui était russe et qui m'a dit
«
Ma fille, ne cherche pas, tu vas disparaître, ils vont te détruire. » Tais-toi, ma fille, et ne parle jamais de ça.
Boubora avait déjà parlé à beaucoup de gens avant de me rencontrer.
Ils
lui ont dit qu'ils ne voulaient rien entendre de son histoire. Et ils ne lui ont plus parlé.
J'avais peur, je ne savais pas quoi faire. Un jour, je suis allée acheter du lait avenue Mir. Je suis aussi allée chez le cordonnier pour réparer les chaussures de ma petite fille et une femme est entrée. Elle m'a dit, « Mère, si vous voulez inscrire vos enfants à l'université, j'y travaille comme prof de langue étrangère. » Les enfants de l'écrivain Chingiz Aitmatov ont étudié chez nous. Je les connais. Le cadet est ministre des Affaires étrangères. Je lui demandais qu'elle me donne le numéro du téléphone du fils Aitmatov pour que je lui parle. Elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas me donner son numéro, mais qu'elle pouvait lui transmettre le mien. Je lui ai donc donné mon numéro de téléphone. Quand elle est retournée à l'université, elle a rencontré l'agent du KGB, Bolot Abdrakhmanov. Elle lui a dit, « Bolot, j'ai rencontré une femme chez le cordonnier. » Elle m'a dit qu'elle a une histoire importante à révéler, mais elle ne m'a pas dit quoi. Voici son numéro. Va parler avec elle.
On m'a parlé de Boubora Kidiralieva. À cette époque, j'étais un jeune capitaine du KGB. J'étais encore à l'université. J'ai rencontré une professeure s'appelant Baiterekova Gulaim et qui m'a dit qu'une femme gardait un grand secret dans son cœur et que c'était peut-être en lien avec la sécurité du pays. Ensuite, elle m'a donné son numéro de téléphone et son adresse. En décembre 1990, j'ai téléphoné à cette femme et je suis allé la rencontrer chez elle.
Je suis rentrée chez moi et je m'apprêtais à boire un thé quand on a sonné à la porte. Quand j'ai ouvert, quelqu'un m'a demandé « Je peux entrer ?» J'ai dit « Bien sûr, entre. » Quand il m'a dit qu'il était du KGB, j'ai cru qu'il était de la police. Dites-moi, mon neveu a eu un accident ou il cause des problèmes? J'avais peur.
D'abord, elle a eu peur de moi. Elle m'a dit, pourquoi êtes-vous venu ici? Je lui ai dit, j'ai su que vous gardiez un secret. Faites-moi confiance. Racontez-moi. Je vais vous aider tant que je peux. Elle m'a répondu, alors assieds-toi. On a parlé pendant 2 ou 3 heures.
Je l'ai invité au salon et lui ai donné du thé. Et il m'a raconté. Vous avez rencontré une femme chez le cordonnier. Elle m'a donné votre numéro. Quel est le secret que vous détenez? J'ai pris un morceau de pain, je l'ai grignoté et je lui ai donné. Chez les Kirghizes, c'est la tradition de faire ça lors d'un serment. Je lui ai dit, si tu jures sur le pain, je te raconterai. Et après, j'ai raconté le début et je pleurais. J'avais mal à la gorge. Je ne pouvais pas continuer. Il m'a amené un verre d'eau de la cuisine. Il m'a promis de venir avec moi.
Le grand secret que cachait sa famille depuis 53 ans était celui-là. En 1938, son père travaillait dans le village de Changtash, comme gardien dans une maison de vacances du NKVD, la police politique de Staline. Sa mère était cuisinière. Boubura était une fillette de 8 ans. Elle n'a dit à personne qu'ils avaient été témoins de la tragédie de Changtash. Chez elle, elle m'a tout raconté en détail. J'ai vu dans quel état elle était pendant qu'elle me racontait son histoire. Et c'était impossible de ne pas la croire. Elle n'avait pas de raison de mentir. Ça ne pouvait rien lui apporter. À cette époque, en Union soviétique, c'était devenu possible de s'exprimer. Ce qu'on ne pouvait pas dire avant a commencé à être dit. En plus, Gorbatchev a ordonné de rendre justice aux personnes qui ont subi la répression stalinienne. Après avoir discuté avec elle, je lui ai promis que je ferais tout mon possible pour l'aider. Avant ça, j'avais cherché des informations à ce sujet au KGB, mais il n'y en avait aucune. À vrai dire, personne ne savait que ce secret allait un jour se dévoiler. Je ne pouvais même pas imaginer que ça avait pu se passer. Je voulais remplir mon devoir envers ma patrie et trouver ces endroits cachés. J'estimais que c'était important pour le Kirghizistan. J'ai parlé à Boubura en décembre et je lui ai demandé de me montrer cet endroit.
C'était le 25 décembre.
Nous sommes partis en voiture là où les gens étaient enterrés. Quand nous sommes arrivés, l'endroit était plat. On ne voyait ni l'usine, ni rien. La maison où j'ai vécu était détruite. Je ne savais pas quoi faire. Je lui ai montré toutes les chambres de la maison de vacances. Je lui ai montré où ma mère et mon père avaient travaillé, où habitaient les voisins russes. Quand on est entré dans la cuisine de cette maison, on voyait que le plâtre tombait du mur. Il avait été réparé avec de nouvelles briques et une barre métallique en sortait. C'était comme si elle criait « Boubouhra, je suis là !» J'ai dit à Bolot, regardez, voilà la barre que je connais, qui reste du mur. J'ai embrassé la barre et j'ai pleuré. J'ai dit à Bolot, ils sont près des toilettes extérieures. Il y avait l'usine de briques, on doit aller là-bas. C'était difficile de marcher dans la neige, dans les trous. Quand j'ai approché des toilettes, j'ai regardé la barre métallique et j'ai dit « Bolot, je suis sûre que la fabrique était ici. » Mais il ne me croyait pas. Il m'a proposé de revenir au printemps. J'ai dit d'accord. Et au printemps, le 2 mai, on est revenu. Moi, je n'ai pas d'enfant. Ma jeune sœur est morte et j'ai adopté ses 3 enfants. Ils ont grandi avec moi. Son fils est resté sans parents quand il avait 6 mois. Il est venu avec moi ce jour-là. Il a pris une vieille brique et a dit « Mère, regarde, la moitié de la brique est noire. » Bolot lui a dit « Tu ne dois pas toucher à ça. » Il a pris cette brique et l'a mise dans un sac. Il l'a amenée à l'expertise. Ils ont confirmé que cette brique datait de 1936. Bolot a convoqué un archéologue et des soldats. Avec des barres, il a déterminé une zone de 2 mètres et demi de côté. Quand ils ont voulu creuser, l'archéologue a dit « Quand les taupes creusent, la terre sort à l'extérieur. » Donc, si vous trouvez un trou de taupe, il faut creuser là, car ça ira plus vite. Les soldats ont commencé à chercher. Un des soldats a trouvé un trou de taupe. Il a juste creusé deux fois et un crâne est apparu. Ce crâne avait deux trous, un derrière et un devant. Dans d'autres crânes, il y avait quatre trous. Dans certains, il y avait des trous derrière et devant, et dans d'autres, à gauche et à droite. Quand les crânes ont été amenés à l'expertise, ils ont confirmé qu'ils ont été abattus vers 1938. Ils ont continué à creuser. Attends, s'il te plaît, j'aimerais prendre un mouchoir.
Le premier jour où on a creusé, on a trouvé le corps de 8 ou 9 personnes. On comptait le crâne de chacun des corps. Si on regarde bien, on pouvait voir sur les crânes le trou d'une balle qui entre et qui ressort. C'était la première preuve.
Il m'avait fait une promesse. Sans belote, ces lieux n'auraient jamais été mis à jour. S'il n'avait pas été d'accord, on n'aurait pas pu creuser. Et je le remercie. Hassan Koulov, le chef du KGB, l'a appelé et lui a dit : Que fais-tu ? Tu n'es pas creuseur de terre ? Avec son salaire, il a acheté la nourriture, les cigarettes, les cartons pour les ossements. Il a eu beaucoup de difficultés. Hassan Koulov, qui est mort maintenant, lui a dit : Achète les cartons toi-même. Je ne t'ai pas dit de creuser, tu as de l'argent.
Plus c'était profond, et plus il y avait une mauvaise odeur. On ne savait pas quoi faire, car les microbes vivent très longtemps, et il pouvait y avoir des maladies contagieuses. Les médecins sont venus faire des analyses, et ils ont dit qu'on aurait le résultat deux ou trois mois plus tard. On n'a pas attendu les résultats. On a continué à creuser. Les premiers jours, on n'avait pas d'endroit pour mettre les ossements qu'on trouvait. On a donc acheté des boîtes de confiserie qu'on a vidées. Et à la place, on a mis les ossements. Plus tard, on a reçu des boîtes spéciales et de la nourriture.
Tous les gens du village sont venus voir ce qu'il se passait en apprenant qu'on avait retrouvé des ossements. Le crâne qui a été retrouvé avait des dents en or. On a retrouvé des lorgnons. On a retrouvé un étui à cigare en cuir.
Je voudrais ajouter que certains de mes collègues avaient des doutes et se posaient des questions. Comment va-t-on prouver que ces personnes sont décédées à cause de la répression? Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Et moi aussi, j'ai commencé à m'inquiéter de savoir comment prouver ça. Mais en continuant à creuser, on a trouvé de la monnaie qui datait de 1934
et des verres de lunettes.
Dans 7 ou 8 crânes, on a trouvé des dents en or. On a aussi trouvé les morceaux de casquettes militaires de l'époque de Staline, des morceaux de bottes et des tuniques militaires. Chaque jour où on creusait, on s'approchait peu à peu de l'année
1938.
L'élément le plus important comme preuve était l'acte d'accusation de Torokul Aitmatov et de Youssoup Abrakhmanov.
Torokul Aitmatov et Youssoup Abdrakhmanov étaient deux jeunes hauts fonctionnaires importants de la nomenklatura soviétique kirghize. Torokul Aitmatov fut exécuté alors que son fils, Tchingiz Aitmatov, n'avait que 10 ans. Tchingiz deviendra plus tard un écrivain internationalement reconnu. Le poète Louis Aragon traduira en français son premier livre, Jamilia. Conseiller de Mikhail Gorbatchev en 1985, il deviendra ambassadeur en Europe de son jeune pays, lors de l'indépendance retrouvée de la République kirghize. Décédé en 2008, son corps repose auprès de celui de son père Torokul et des victimes kirghizes de la répression stalinienne de 1938.
On a retrouvé une veste de prisonnier avec un papier plié en quatre. On l'a mise à l'ombre et on a ouvert doucement avec un couteau. C'était marqué Torokul Aitmatov, décision du juge le 7 novembre 1938. Paragraphe 1. Il y avait un trou dans le papier. Je pense qu'ils ont tiré dans le cœur de ce jeune homme, Torokul. Grâce à ce papier, on a prouvé que 138 personnes ont été fusillées.
Il était écrit par exemple que le 5 novembre, Torokul Aitmatov a été tué pour espionnage. En se basant sur cet élément, des documents concernant 137 autres personnes ont été trouvés dans les archives du KGB. Ensuite, leurs noms et prénoms ont été gravés sur des pierres.
Ils ont été jetés comme des chiens.
Parmi tous ces morts, tous n'étaient pas secrétaires du comité du parti régional ou commissaires du peuple.
Bunların arasında bayağı karapayım eldir de bolgon.
Il y avait aussi des gens ordinaires.
Argandai birinciden uluttuk kişiler bolgon.
Il y avait surtout des patriotes.
Şunu şojanağı.
Quand ils ont été condamnés, les prisonniers ont demandé au NKVD les preuves de leur culpabilité. Et je pense que quand ces gens ont reçu les documents, ils les ont mis dans leur poche avant d'être fusillés. Je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils espéraient qu'un jour ils seraient innocentés. C'est pour ça que c'était dans la poche de ces gens. Mais les simples citoyens, ils les ont tués sans les interroger.
Атамдын айткан аманатын аткарып, урман айыгып, жакшы болуп калдым балам.
J'ai remercié Dieu d'avoir pu faire ce que m'avait demandé mon père.
Азыр болсо.
Puis j'ai guéri.
Өзүм 1927 жылы июль айында төрөлгөн.
Je suis née en juin 1927.
85-ке толуп 86-га жеттим.
Maintenant j'ai 86 ans.
Бул окуяны айткан сайын өзөлүп ыйлагандын себеби.
Et je pleure à chaque fois que je raconte cette histoire, parce qu'ils auraient pu tuer ma famille. Ce secret était dur à porter. Quand j'ai voulu raconter, on m'a dit « Ferme-la, comment tu pourrais savoir ?» Quand j'ai téléphoné, on m'a dit « Tu mens ». Finalement, il y a eu beaucoup d'articles sur ça, et à chaque fois, ça me fait mal.
Корреспонденттердин, журналисттердин статьялары чыкканда звонит десем, жабаусың да, келжиремей, калжырабай деген сөз токтом.
Les journalistes m'ont dit, ferme-la. De quoi tu parles?
Мен кандай кабыл алам? Мен жардамчылык.
Le gouvernement ne m'a pas aidé.
Биринчиден мына ошол Атабейти.
L'ouverture du charnier d'Atabeït a eu lieu en 1991. Ils ont construit le mémorial 11 ans après. L'endroit où on a creusé était resté ouvert. Et donc les gens ont jeté des poubelles. Les animaux ont marché dessus.
Биринчиден анан каражат жок дегенде мындай көбүрө окат дейт.
Comme il n'y avait pas d'argent, ils ont construit Atabeït seulement en 2002. Et depuis, 12 ans ont encore passé. Certaines parties du mémorial ont été abîmées. Et il n'y a pas eu de réparation. Ils ne donnent pas d'argent. Maintenant, il y a des visites de délégations étrangères, de jeunes, de citoyens. Et j'en suis très heureux. Mais ce que je regrette, c'est que les politiques font semblant que cela les intéresse. Quand il y a les élections, ils veulent bien se montrer. S'ils s'en préoccupaient vraiment, ils auraient donné une récompense aux 4 ou 5 personnes qui ont creusé. Mais rien, depuis 25 ans. Boubourra n'a eu aucune aide, alors qu'elle en a besoin. Le gouvernement n'a rien fait. Et je trouve que ce n'est pas bien.
Les enfants de mes frères et sœurs, les parents de mon père et de ma mère, tous auraient pu avoir des problèmes si j'avais parlé. Je n'ai parlé qu'à l'époque de Gorbatchev. On aurait pu me mettre en prison, me dire « Comment sais-tu ça ?» Ils auraient pu me tirer dessus et dire que j'étais simplement morte. C'est tout.
C'était le premier charnier qui a été mis à jour après la chute de l'Union soviétique.
Ce qui m'a poussé, c'est mon éducation. Ce qui faisait peur, c'est qu'on tuait les intellectuels qui voulaient mettre les Kirghizes au premier plan. Ces innocents sont restés cachés pendant 53 ans. Je me disais, comment pourrais-je parler ? Je savais qu'ils allaient tuer ma famille. Ils te mettent en prison, tu ne peux rien faire. Avec ma conscience personnelle, kirghize, maternelle, féminine, entre frères et sœurs, conscience, responsabilité. J'avais fait une promesse à mon père. Maintenant, j'ai tout raconté. Je n'ai plus peur de mourir. J'ai eu un ulcère à l'estomac. Ils m'ont dit que j'allais mourir aujourd'hui ou demain. Ils ont préparé les moutons à égorger pour mes funérailles. Si j'étais morte à ce moment-là, ce secret serait resté secret. Il fallait raconter. Avec ma force. Avec ma conscience humaine. Même si je suis une femme, j'étais déterminée. Je voulais ouvrir les yeux du gouverneur aveugle. Vous ne devez pas ignorer le martyr comme ça. C'est pour ça que j'ai parlé.
Je ne sais pas comment dire. Quand il y a eu l'inauguration d'Atabeit, Buburra m'a téléphoné en pleurs. Bolot, regarde la télévision. Il y a l'inauguration d'Atabeit. Pourquoi ne nous ont-ils pas appelés ? Je suis allé chez elle et je lui ai dit, Buburra, vous et moi, nous avons fait ce qu'on avait à faire. Peut-être qu'un jour ils se souviendront de nous. 23 ans après, nous attendons toujours.
Le mémorial Atabeit, dont la traduction signifie la tombe de nos pères, fut construit à l'emplacement exact du charnier. Lors des commémorations, les officiels politiques ont systématiquement écarté Buburra Kidiralieva, allant même jusqu'à répandre la rumeur de sa mort. Les journaux kirghizes n'ont relayé que l'information officielle. Une vie entière de silence et de peur.
Voilà, mon enfance, ma jeunesse et le présent. La solitude. Je n'ai pas eu d'enfant. J'habite chez la fille de mon frère. J'ai une retraite de 5000 sommes, 100 euros. Vétéran du travail, vétéran de guerre. J'ai découvert Atabeit. Personne ne me demande est-ce que tu existes. Personne ne me demande es-tu vivante. Qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que tu bois ? Es-tu malade ou pas ? Je suis une fille kirghize. Même si je ne suis pas une héroïne, j'ai pu faire ce que m'a demandé mon père. Je remercie Dieu. J'ai 86 ans. Encore une chose. L'année dernière, quatre jeunes gens ont sonné à ma porte. Trois garçons et une fille. Ils ont amené deux sacs de farine. Je leur ai demandé, qui êtes-vous ? Excusez-nous, mère. Nous sommes étudiants. Ils ont acheté au marché deux sacs de farine pour me les offrir. Je les ai remerciés. Ils ont balayé le quartier. Ils ont travaillé pour m'acheter 2 sacs de farine. Moi, je suis très contente. Je prie Dieu qu'il leur accorde une longue vie. 2 sacs de farine, pour moi, c'est toute une année de nourriture. Personne ne leur a dit de travailler au marché pour acheter ces sacs de farine pour moi. C'est leur conscience. Je n'aurais jamais imaginé ça. Je ne les connais pas. Ils ont réussi à trouver mon adresse. Ils ne m'ont pas téléphoné. Ils sont venus. Comme ça.
Deux sacs de farine. Un entretien avec Boubourak Kidiralieva et Bolot Abdrakhmanov. Un documentaire de Dominique Henry et Luc Plantier avec la participation de Tourad Bektenov.
Rahmat.
Je te remercie. Je suis contente que tu sois venue chez moi pour savoir comment je vis.
Avec les voix de Nora Caillot pour Boubourak Kidiralieva, Philippe Drek pour Bolot Abdrakhmanov et Alain Eloi pour le narrateur. Traduction Tourad Bektenov. Prise de son Dominique Henry, Christophe Kirghizistov, Pierre Devallée. Montage Luc Plantier. Mixage Vincent Venet. Avec nos plus vifs remerciements à Vincent de Tours, Pierre-Yves Lequinf et Éric Sariban. Une production des films de l'Heure Bleue. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Projet sélectionné par Du Côté des Ondes, avec le soutien de la Première, la SCAM, la SACD, la SCAM et la SACD France, et la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une coproduction avec RTS, le Labo, David Collin.
Vous pourrez réécouter et télécharger ce documentaire sur franceculture.fr.